Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Premier extrait de ce zapping, Charles Matin ce matin. Allez-vous restreindre vos loisirs ? RMC vous a présenté aujourd'hui une étude qui révèle que 4 parents sur 5 ont réduit leurs dépenses pour leurs enfants. Témoignage émouvant ce matin d'Olivier. Il est papa de 2 enfants et il ne peut plus leur faire plaisir.
L'hiver, les vacances au ski, on ne sait pas ce que c'est. Les vacances de Pâques, ben les vacances, si on est à la maison, on sort, on va faire du vélo. On va au cinéma, le prix du cinéma, parce qu'ils se plaignent beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier, à un moment donné, les gens ils oublient de dire ça. C'est qu'un cinéma, pour une famille de 4, c'est 80 euros la sortie, si on prend de pop-corn et une boisson. Et quand un enfant vous demande, papa, je peux avoir un paquet de pop-corn, vous dites pas non.
Ils ont quel âge, vos enfants ?
On a 13 ans.
13 ans, ouais, donc ouais. Ils sont quand même en âge de comprendre. Vous leur dites quoi, du coup ? Vous leur dites, on n'a pas le but.
J'ai de la chance. Un 13 ans et une petite fille de 10 ans. La psy, excusez-moi, mais la vie n'est pas facile pour les gens qui travaillent. Je suis fonctionnaire, je gagne. Certains diront que je gagne bien ma vie parce que je suis à 2200 euros net par mois, mais j'ai 23 ans de carrière, ça fait 13 000 francs.
Bien sûr,
on y arrive.
Il
ne faut pas oublier que les gens, ils regardent toujours autour d'eux, et les enfants, c'est pareil. Les enfants, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui ont des villas avec des piscines et pourquoi eux, ils vivent dans un appartement de 70 mètres carrés miteux à 1300 euros par mois.
Témoignage bouleversant ce matin d'Olivier. Il fait partie de ces 4 parents sur 5 qui ont réduit leurs dépenses pour leurs enfants. C'est bouleversant ce qu'on vient d'entendre, Mathilde.
Oui, et je pense que ça ne va malheureusement pas aller en s'améliorant. Et si je le relis à la question écolo, désolé de le faire, mais parce que pendant longtemps, on a dit l'écologie, c'est un truc pour les riches, c'est un truc pour bobos. Qui alertait sur ces questions-là ? Sur l'augmentation du prix de l'essence parce que l'énergie fossile allait augmenter, elle était limitée. Les écolos. Qui augmentait sur le fait que le prix des pâtes, du pain, allait augmenter parce qu'il y avait des sécheresses ? Qui alertait sur le fait que le prix de l'énergie allait augmenter si on ne faisait pas de plan de rénovation des bâtiments, si on ne développait pas les énergies renouvelables ? C'est les écolos. Et là, aujourd'hui, l'alerte, elle est posée sur la question de l'eau. Et donc, moi, j'invite les gens qui pensent que les écolos sont que des chieurs, des emmerdeurs, à se poser des questions. Et sur la forme, sur les méthodes, peut-être qu'il y a des choses qui sont mal faites. Et je veux bien reconnaître un certain nombre d'erreurs. Et je condamne à nouveau les violences qui ont été faites ce matin. Mais posez-vous vraiment les questions sur des enjeux vitaux. Sur des enjeux vitaux, je pense qu'il y a des choses qui sont primordiales et que la question de l'inflation, elle est très liée à la question écolo quand on regarde de près. Donc les mensonges qu'on a dit aux Français en leur disant que c'est un truc pour les riches, ils sont en train de se le prendre de plein fouet dans la tête.
On fait quoi, Fred ? C'est vrai que quand on entend Olivier et tous ses parents qui disent on peut plus aller au cinéma, on peut plus aller nulle part avec les gosses parce que c'est trop cher, quoi.
C'est trop cher. Ce qui est insupportable, c'est que ces gens travaillent, quoi.
Bah c'est ça.
Et le problème, c'est qu'à un moment, j'ai peur de ce que je vais dire en fait, mais il y a un moment, s'il y a plus d'argent, il faut peut-être réserver un peu plus l'argent aux gens qui travaillent en fait.
Pourquoi t'es pour les actionnaires alors? Et je suis dogmatique quand je dis ça.
On est tous actionnaires d'une manière ou d'une autre. Quand on est une assurance vie, je vous disais tout à l'heure, on est actionnaire. Et puis les grosses entreprises, elles payent des impôts. Nous sommes le pays le plus redistributif au monde.
Tu sais très bien que c'est faux sur l'actionnariat.
Ah non, c'est la réalité. La France est le pays le plus redistributif au monde. C'est-à-dire
entre les gros salaires. Ça, oui, je parle sur l'actionnariat.
Dividendes.
Parce que l'argent est là aujourd'hui. Il n'a pas disparu, l'argent.
Non.
Il ne s'est pas volatilisé.
Le problème.
En effet, les assistés, ce sont aujourd'hui les actionnaires.
S'il y a moins de dividendes.
Bien sûr que si.
Le problème, c'est qu'il faut absolument peut-être réduire des dépenses inutiles parce qu'on donne beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Aussi qui ne sont pas français et qui ne contribuent pas à l'effort de la nation, qui viennent et qui touchent de l'argent, on devrait peut-être réduire ça.
C'est pas ça qui va donner de l'argent à Olivier.
Si, tout simplement, parce que si on réduit le train de vie de l'État, si on arrête de gaspiller, on baisse les charges et sur les salaires et les salaires augmentent. C'est automatique.
Enfin, Olivier, il est pas fonctionnaire, hein. Il est pas payé par l'État et il travaille dans une entreprise. Donc.
Non, mais il disait qu'il était fonctionnaire justement.
Ah, je pensais qu'il travaillait.
Il disait qu'il fonctionnait. Oui, il disait qu'il fonctionnait.
Mais enfin, il n'y a pas Olivier qui est dans cette situation. Ils sont 4 parents sur 5.
Mais le gros problème en France, c'est la différence entre le salaire brut et le salaire net. Entre ce que payent les entreprises et ce qui arrive dans les porte-monnaies des travailleurs. Donc, si à un moment, on réduisait le train de vie de l'État, on arrêtait de dépenser n'importe comment et qu'il y ait moins de pression fiscale sur les entreprises pour permettre justement que les salaires nets soient plus proches du brut qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Mais on arrête, peut-être
mieux. Tu peux aussi avoir plus d'impôts pour les gens qui gagnent beaucoup, beaucoup, par
exemple. Exactement. Comme en Espagne, comme en Allemagne, comme en Angleterre, qui ne sont pas des pays communistes.
Le taux, c'est quoi en France ? C'est 49% le taux le plus élevé ? 45.
C'est au-dessus d'une certaine somme que tu
Et puis, l'impôt, enfin, l'ex-impôt sur la fortune, etc. La France est le pays le plus redistributif au monde.
Mais là, ça, on c'est parle une réalité. De 1 à 13, on a
de 1 à 13. Après la redistribution, on arrive de 1 à 8. Et ensuite, avec les services publics et toutes les aides, on est de 1 à 3.
Perico, les gars, c'est ce qu'il faut aussi que les entreprises de loisirs baissent leurs prix. Parce que c'est.
Non, c'est pas.
Le cinéma, c'est hyper cher.
Tout le monde a comprimé tous les prix. Aujourd'hui, le problème est simple, la masse des charges contraintes des foyers français. La masse des prélèvements obligatoires.
Exactement.
C'est cumulé. Tout, hein, très bien. C'est monstrueux. Donc, le pognon dingue dont parlait Macron, qui est vrai, il y a un pognon dingue. Est-ce qu'on peut le redistribuer plus équitablement par rapport aux catégories sociales et aux Français? Voilà. Quand Rocard a dit on peut pas accueillir toute la misère du monde, même si on est obligé de le faire et on le fera toujours, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a un père de famille qui vous dit je peux pas acheter des jouets ou des friandises à mes enfants parce que mes revenus me le permettent pas.
Mais ça c'est pas à cause de la misère du monde comme tu dis.
Ben, si. C'est ben, comment on distribue l'argent de la République française.
C'est comment est-ce qu'on distribue l'argent.
Qui a la caisse, à qui on le donne, pourquoi et comment. À un moment donné, il va falloir le reprendre à zéro parce qu'on va se retrouver avec des gens au pouvoir qui seront pas du tout gentils. Hein, on a eu des Bolsonaro, on a eu des Trump. Un jour, on va avoir en France des gens qui vont avoir un calcul tout à fait différent qu'est le nôtre. Et là, ça fera très mal. Alors, où on se réveille maintenant? Parce que ce monsieur-là, qui est dans le désespoir, il engendre d'autres désespoirs. Ça peut engendrer des colères et ça peut engendrer de mauvaises interprétations. Donc, où on prend le taureau par les cornes et on voit les comptes en face, ou on continue à dire, mais on peut pas toucher, on continue comme ça, et ça se finira très mal.
Là, il y a un nombre de défaillances d'entreprises qui est un nombre record depuis 25 ans, et tu vas avoir beaucoup de gens qui vont se retrouver dans la rue parce que leur entreprise, elle a fermé, et ça n'a rien à voir avec toute la misère du monde.
Moi, je suis pas sur, non seulement l'écologie, mais c'est une toute petite partie du problème. Pourquoi on a confié à la Chine la fabrication de produits de biens de consommation qu'on lui a délégué parce que ça pollue. Il nous renvoie des produits de consommation ici qui ruinent nos emplois, qui ont tué nos industries. Vous voyez qu'on assène. Mais tant qu'on ne s'attaquera pas à ces problèmes, on aura des gens comme ça. C'est intenable d'entendre ça. Parce que ce monsieur, c'est vous et moi. C'est intenable d'entendre un monsieur qui est au bord des larmes parce qu'il ne peut pas donner des choses qui sont minimales à ses enfants. Et il y a de plus en plus de Français qui en sont là. Les gilets jaunes, c'était qu'un tout petit symptôme qui l'avertissait. Les gilets, ils seront plus jaunes, ils seront d'une couleur beaucoup plus foncée, beaucoup plus colérique. Donc, au pouvoir public à prendre leur disposition.
Eh bien, c'est très beau de s'indigner sur les plateaux télé. Maintenant, il faut mettre en place les solutions. Une taxe carbone aux frontières pour que les produits ne soient plus produits en Chine, mais produits chez nous.
Oui.
Ça fait 20 ans.
Tout était prévu.
Même une TVA sociale. Emmanuel Macron le bloque au niveau européen.
Que Monsieur Barroso et Monsieur Juncker qui ont dirigé l'Europe, qui vous emmenez là, voilà.
Et il y a un moment, la valeur, elle est créée par les entreprises. Tu comprends très bien ce que je veux dire parce que je bosse avec plein d'artisans. La plupart de ces petits patrons, ils n'ont pas d'actionnaires et de dividendes comme BlackRock et compagnie. L'entreprise, il est là-bas. Les gens le voient bien hein, quand on voit les milliards clinquants, quand on voit les yachts des multimilliardaires qui sont de plus en plus gros qu'on arrive à faire. L'argent, il est à cet endroit-là, il faut aller
les
chercher.
Les solutions, on les a, on n'a pas le courage politique.
Extrait des GG ce matin. Faut-il résilier le bail des mauvais locataires? À l'approche de la trêve hivernale, les députés Renaissance ont déposé une proposition de loi permettant la résiliation obligatoire d'un bail en cas de loyer impayé. Une bonne mesure pour l'agriculteur des GG, Didier Giroux.
Je pense qu'il faut envoyer un signal fort par rapport mais aux mauvais payeurs, parce qu'il y a aussi des mauvais payeurs consciencieux d'être mauvais payeurs, enfin, qui font ça en toute conscience et envoyer un signal fort sur le fait que si tu possèdes un bien immobilier, que tu le mets en location et que tu n'es pas payé, tu as des recours. Je vais te décrire ce que je vis autour de moi. C'est plein de petits villages où il y a des maisons qui sont en train de tomber en désuétude parce que les gens sont morts et puis parce que les héritiers n'arrivent pas à louer et ne veulent pas louer parce qu'ils ont cette crainte de tomber sur des locataires qui soit dégradent le logement, voire des maisons entières, soit dégradent le logement, soit ne les paieraient pas. Et il y a cette culture, il y a cette conscience de la part de propriétaires de biens que quand t'as un locataire et que t'as un bail, tu peux pas t'en défaire, y compris s'il te paye pas.
Fred Hermel, est-ce qu'il faut résilier le bail des mauvais locataires?
Oui, oui et oui, pour protéger les locataires.
C'est-à-dire ?
Bah, parce que aujourd'hui, quand vous voulez vous loger, le propriétaire, il vous demande tellement de choses, tellement de garanties, parce qu'il a peur justement que vous ne payiez pas, que bah, ça ferme la porte à beaucoup, beaucoup de gens, notamment les jeunes, les gens qui sont pas en CDI, les honnêtes gens qui pourraient payer, mais tu es là, tu as un CDD,
il y a des gens qui sont pauvres et qui sont honnêtes, hein, vous savez, ça existe aussi.
Oui, mais justement, ces gens-là sont pénalisés par les mains honnêtes.
Il y a une petite partie de malfrats, parce que ce sont des malfrats qui sont des professionnels du non-paiement de loyer et qui pénalisent tous les autres. C'est très difficile aujourd'hui, notamment à Paris, de se loger quand tu n'as pas un CDI, quand tu es jeune, justement parce que les propriétaires ont peur
aussi parce que
tu ne payes pas.
Cher.
Mais parce que les propriétaires ont peur que tu ne le payes pas, donc ils te demandent tellement de choses, parfois des cautions, etc., que ça bloque le reste des locataires. Donc, oui, il faut résilier les baux, justement pour protéger d'abord les locataires honnêtes.
Et ces gens-là, vous savez, il peut vous arriver des malheurs dans la vie. Il peut y avoir
tout d'un coup, vous avez été
viré, il vous est arrivé un accident de la vie.
On voit très bien que la plupart des squatteurs, parce que ceux qui ne payent pas le loyer, finalement, ce sont des squatteurs. Ils connaissent très bien la loi, ils s'arrangent pour rester très longtemps.
Oui, enfin, c'est rarement des gens qui gagnent 10 000 par mois, vous voyez.
On serait surpris. Il y a des gens qui vivent très bien comme ça.
Perico Légas, on fait quoi ?
On rassure les propriétaires.
Et on le fait comment ?
On rassure le propriétaire, on lui donne des garanties. Il sait que s'il loue, il ne sera pas emmerdé et qu'il ne sera pas contourné.
Mais il existe des assurances pour ça.
Eh ben, on met des assurances.
Vous pouvez prendre des garanties locatives.
On rassure le propriétaire. Ouais. Voilà. Donc, et les mauvais payeurs qui ont une détresse sociale, ceux-là, ils vous doivent être protégés par ça, parce qu'on reconnaît que la bonne foi, ils ont un problème. Et justement, le mauvais payeur professionnel, spécialiste, celui-là, il faut qu'il en prenne plein la gueule. Celui-là, il faut qu'il ait peur.
Je suis d'accord avec Perico, que je pense qu'il faut différencier, parce qu'il y a un enjeu conjoncturel aujourd'hui. On voit les factures d'électricité et d'énergie exploser. Donc, il y a des gens qui n'arrivent plus à payer et le loyer et la facture d'énergie. Moi, je pense que dans ce contexte-là, alors que l'État n'a pas fait son boulot de faire la rénovation thermique des bâtiments, donc c'est les gens qui...
Ils ont fait leur boulot de bouclier tarifaire.
Mais d'accord, mais s'il y avait eu un plan de rénovation thermique des bâtiments, il n'y aurait même pas eu besoin de bouclier, donc on n'aurait pas gaspillé cet argent public, et les gens ne gaspilleraient pas leur argent privé pour payer des choses qui ne sont utiles à personne, et qui polluent par ailleurs. Donc j'ai envie de dire, à mon sens, il faut quand même différencier ceux qui ne vont pas arriver, et qui souvent aussi travaillent, à boucler leur loyer et leur facture énergétique. Je rajoute aussi qu'en France, il y a quand même 42% des gens qui ne possèdent aucun logement, 34% qui possèdent un seul logement, et qu'il y a 1 million de propriétaires qui se partagent la moitié du parc locatif. Donc je pense que là aussi, il y a un sujet à poser sur la table de comment est-ce qu'on répartit
le vilain propriétaire,
la question des logements.
Mais je ne suis pas du tout en train de dire ça. Ce sont des gens qui ont hérité une maison.
Fred, écoute-moi, j'ai absolument pas dit ça.
Tout ça, c'est des petites maisons avec des loyers à 500, 600.
Mais là, on parle notamment dans les grandes villes. Il n'y a pas que les résidences secondaires en station balnéaire.
Mais c'est pour ça. Mais il y a plein de gens. Mais c'est pas parce que quelqu'un a une maison, possède une maison et une deuxième maison qu'il a pu hériter, etc., que c'est forcément quelqu'un de riche. La plupart des gens ne sont pas riches.
Si tu m'écoutais, tu verrais que c'est pas ce que je l'ai dit. Mais comme tu stigmatises à chaque fois que je parle.
Finalement, il y a un petit peu qui possède la moitié.
C'est des faits. Je pose des chiffres. En fait, c'est pas du dogmatisme. C'est des chiffres. L'INSEE, 1 million de propriétaires se partagent la moitié du parc locatif. C'est pas dogmatique. C'est l'INSEE qui le dit. Moi, je dis à partir de ça. Peut-être qu'il y a un débat à avoir sur la question du logement, alors qu'on voit bien que que l'emprunt est quand même de plus en plus dur, et que, pardon, moi j'ai 32 ans, c'est dur quand t'es jeune pour accéder à la propriété. Je suis pas en train de stigmatiser les propriétaires, je pose juste une question qui est, moi j'aimerais me loger demain, on fait comment quand les factures explosent, que les loyers c'est compliqué à la fin du mois, et que c'est compliqué d'être propriétaire. Il y a un sujet, est-ce qu'on peut le traiter de manière intelligente, plutôt que de s'engueuler, de se stigmatiser comme on vient de le faire tous les deux.
On peut aussi, cette réalisation de bail, protéger. On n'est pas obligé d'être propriétaire pour être heureux dans la vie. Moi je ne suis pas propriétaire par exemple, mais simplement je voudrais que tout le monde puisse avoir accès assez simplement au droit de d'être locataire, sans qu'on te demande des tonnes de garanties.
Et tu te rends bien compte que ça ne résoudra pas le problème, mais...
Ah oui, mais c'est un premier pas.
Dans un instant, à la minute conso avec Stéphane Pedrazzi, à la veille de la Toussaint, on s'intéressera à l'augmentation des tarifs funéraires. Bah oui, c'est aussi un secteur touché par l'inflation, et même plus que ça. Stéphane nous expliquera tout ça dans un instant. À tout de suite.
RMC, Estelle Midi.